En ce lundi, nous ferons dans les deux parties de notre émission en permanence l'aller-retour entre la France et ses colonies. Dans la première partie, l'Égypte de Bonaparte. Dans la seconde, l'Afrique noire d'après les indépendances. Pour commencer, nous aurons le plaisir de recevoir l'historien Yann Koller, professeur d'université à Melbourne, qui nous livre aux éditions Alma une réflexion passionnante sur un trou de mémoire français. Dans Une France arabe, histoire des débuts de la diversité, il nous décrit l'aventure française de ceux qui s'étaient engagés auprès de Bonaparte, alors que justement la défaite française était consommée du côté de l'Égypte. Qu'ont-ils fait ? Où sont-ils arrivés ? Où ont-ils vécu dans notre métropole ? C'est ce qu'il nous raconte dans ce livre. Aller-retour toujours entre une métropole et ses colonies. Dans la deuxième partie de cette émission, avec Séphrine Yatar, nous recevrons l'historienne de l'Afrique Catherine Kokri-Vidrovitch en ouverture de notre semaine consacrée au mouvement et à la formation des étudiants d'Afrique noire après les indépendances. Bonjour Yann Koller, merci d'être avec nous. Vous êtes à Paris pour donc promouvoir le livre qui vient d'être traduit aux éditions Alma, donc 1798-1831. Une France arabe, histoire des débuts de la diversité. C'est un livre qui a été publié il y a 4 ans maintenant aux États-Unis, où vous allez bientôt d'ailleurs enseigner, en Californie en l'occurrence. Mais vous êtes professeur d'université à Melbourne et vous avez parcouru des archives depuis pas mal d'années, des archives françaises assez méconnues, assez oubliées. Et vous y avez trouvé des perles autour justement de la présence en France, donc entre, mettons, 1801 et 1830, d'une colonie assez importante, puisque c'est plusieurs centaines, sinon un millier d'individus, qui entre Marseille, Melun ou encore Paris, ont navigué sur le territoire français, qui d'une certaine façon n'ont pas laissé de traces dans notre mémoire, Yann Koller.
Oui, absolument. En fait, ça a été un voyage de découverte fascinante et vraiment extrêmement riche. Je pense, quand je suis arrivé en France en 2003 et j'ai commencé les recherches, on m'a dit, quand j'ai dit que je voulais faire des recherches sur la population arabe en France au 19e siècle, on m'a dit, mais monsieur, non, mais c'est pas possible.
Il n'y en a pas.
Oui, exactement. Mais bon, après, donc, j'ai cherché beaucoup de choses, j'ai parcouru beaucoup d'archives, surtout aux archives nationales, mais c'est seulement quand je suis arrivé au château de Vincennes, dans les archives de l'armée, que j'ai trouvé une richesse extraordinaire, 12 cartons de documents sur les réfugiés répertoriés par nom des individus, même des documents qui n'étaient pas même dépliés, qui ont resté là depuis en fait le début. Ouais.
Et ce qui est extraordinaire dans votre livre, c'est que d'abord, on voit que c'est une enquête, on voit que vous allez de carton d'archives en carton d'archives et que vous nous faites connaître des personnes qui donc quittent avec d'autres sur un bateau, c'était dans 1801, avec le général Yacoub, qui était le seul général donc, d'origine non française, mais d'origine justement moyenne-orientale dans l'armée de Bonaparte, avec le général Yacoub qui va mourir pendant la traversée, qui quitte l'Égypte pour pouvoir arriver à Marseille. Ils arrivent à Marseille et ils espèrent trouver une France qui corresponde à leur rêve de France, tel que leur a enseigné Bonaparte et tous ceux qui le suivaient en Égypte. Et puis, ça n'est pas exactement la chose qu'ils trouvent. La France qu'ils espéraient n'est pas exactement au rendez-vous en 1801, Yann Koller.
Non, ce n'est pas du tout ça, en fait. Et ils sont dans le lazaret de Marseille pendant la quarantaine. Donc, ils ont vraiment le moment pour apprécier ce changement. Ils commencent à... Bon, ils s'appellent la légation égyptienne, parce qu'en fait, ils ont un projet politique de l'indépendance
de reconquête l'Égypte. De l'Égypte.
Ouais, mais c'est pas seulement la reconquête par les Français. En fait, à bord du vaisseau. En fait, ils sont en conversation avec le capitaine anglais pour établir des liens avec les Anglais parce qu'ils veulent une Égypte indépendante et ne pas en fait dominée par les Français ni par les Anglais, mais avec un gouvernement qui est juste, sévère et national.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment acquis certains des idéaux de la Révolution française, on pourrait dire. C'est ça. Et donc, ils veulent l'appliquer, cette Révolution française, mais chez eux, donc, et devenir une nation à part. Bon, évidemment, ça ne plaît pas forcément. Et surtout, quand ils arrivent sur le territoire métropolitain, quand ils arrivent à Marseille, eh bien, on leur dit, attendez, restez donc ici à Marseille, alors que leur première envie est de venir évidemment voir le gouvernement à Paris. Et on va les cantonner dans cette ville de Marseille pendant quoi? Presque 10 ans pour la plupart d'entre eux, c'est ça?
Oui. Pendant 10 ans, en fait, parce que je pense que ce n'est pas convenable pour ce nouveau gouvernement impérial, consulaire, mais après impérial, d'avoir des Égyptiens indépendantistes à Paris. Qui, en fait, la priorité, c'est plutôt de rétablir l'alliance avec les Ottomans qui a été rompue par l'invasion de l'Égypte, ce qui se fait. Mais bon, après 1810, 1811, je pense que finalement, un nouvel ordre a été établi en Égypte. Et l'Égypte n'est plus en jeu, en fait, dans la guerre entre les Français et les Anglais. Mm-hmm. Donc, c'est Mohamed Ali, en Égypte, qui a établi cet ordre. Et donc, enfin, les chefs de cette émigration sont permis à venir à Paris, s'établir plutôt comme des souteneurs, les masses de granit de Napoléon, en fait, les bourgeois.
Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a différentes catégories sur ce bateau qui arrive donc à Marseille en 1801. Il y a des soldats, dont certains d'entre eux vont être réquisitionnés et vont composer le corps des Mamelouks de Napoléon dans les grandes batailles napoléoniennes. Il y a ces notables, pourrait-on dire. Et puis, il y a toute une part de pauvres qui vont d'ailleurs rester généralement assez pauvres, qui vont s'installer à Marseille dans des petits quartiers et qui vont subir progressivement quelques avanies de la part de la population marseillaise, en particulier au moment de la chute de Napoléon en 1815. Donc il y a des catégories sociales très différentes et vous insistez bien là-dessus pour ne pas les prendre en bloc, alors que généralement l'administration française les considère plutôt comme un bloc, cette légation égyptienne ou ces Égyptiens, puisqu'on les appelle les Égyptiens en l'occurrence, Yann Koller.
Oui, ça, en fait ils ont commencé à dire les réfugiés d'Égypte, mais ça c'est très vite passé en réfugiés égyptiens. Mais en fait, ils n'étaient pas forcément des Égyptiens. Il y avait des Syriens, il y avait des
Libanais,
des Palestiniens, des Soudanaises.
Oui, parce qu'il y avait des esclaves avec eux, parfois.
Absolument, ouais.
Donc, il y avait des Noirs, il y avait des... Et donc, tout cela se mélange donc, dans cette présence à Marseille.
Oui, c'est une population très hétéroclite, mais... après, je pense que c'est très important de, à partir de cette population, on voit comment a agi le gouvernement français sous Napoléon. Et c'était très important de former des communautés, juste comme les Juifs, les protestants qui ont été remis dans
des groupes
dans les
communautaires.
Consistoires, par exemple. Donc, population, vers 1806, 1807, ils ont vu très bien en fait qu'ils étaient visés par l'administration de Marseille et qu'il fallait en fait
s'auto-réguler d'une certaine façon.
Oui,
on va demander aux dirigeants de cette communauté, en tout cas les plus puissants de la communauté, donc de faire le ménage eux-mêmes, de dénoncer les mauvais éléments. Donc il va y avoir un travail donc de dénonciation pendant que le gouvernement français paye des soldes à ces gens-là. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent, ils réclament de l'argent puisqu'ils ont travaillé avec les Français, puisqu'ils sont venus ici parce qu'ils étaient des collaborateurs des Français en Égypte. Et on va leur donner des soldes, une paye permanente avec une gradation entre les plus faibles à qui on donne très peu et puis les plus importants à qui on peut donner beaucoup plus, en l'occurrence Yann Koller, c'est cela?
Absolument, oui. En fait, c'est considéré par le gouvernement comme un secours, mais quand j'ai lu la correspondance en arabe, eux, ils l'appellent jamakia, ce qui veut dire salaire. Donc, pour eux, c'est des positions de considération par le gouvernement français. Et en fait, ces pensions ont continué même sous la Restauration et jusqu'aux années 1890. C'est incroyable, en fait, cette
Cette longue durée.
durée, oui, exactement.
Alors, vous parliez de ces premiers incidents dans la ville de Marseille en 1806, entre la population marseillaise et cette population d'Égyptiens. Vous citez dans votre livre, donc une France arabe, histoire des débuts de la diversité, chez Alma, vous citez cette lettre du maire de Marseille, Antoine Ignace Antoine, donc qui écrit au préfet des Bouches-du-Rhône, Antoine Thibaudeau. Voici ce qu'il écrit. La ville de Marseille, déjà chargée de mamelouks, de juifs réfugiés d'Alger et de négresses égyptiennes, cette dernière espèce, la pire de toutes, voit avec une sorte d'alarme ces étrangers se réunir aujourd'hui en plus grand nombre. J'ai sévi plusieurs fois, surtout contre les femmes de couleur, mais dans les bornes de la police, en leur faisant subir une détention de quelques jours. C'est toute la sévérité dont je puisse user. Et il demande donc au préfet, des Bouches-du-Rhône, de faire un peu plus en matière de sévérité vis-à-vis de ces étrangers installés sur le territoire français. Qu'est-ce qui se passe dans ces bagarres entre pouvoir local et pouvoir national autour de cette communauté arrivée en 1801, venant d'Égypte et d'anciens collaborateurs de Bonaparte en Égypte?
Oui, en fait, c'est un moment très important où, en fait, le maire essaye de rétablir son autorité parce que la municipalité de Marseille a été refaite après sa destruction sous la Révolution. On sait peut-être l'histoire de Marseille vit son nom sous la Révolution. Donc, il voulait en fait faire du Fort Saint-Jean, maintenant, aujourd'hui, le MUSEM, le nouveau musée à Marseille, du Fort Saint-Jean, un dépôt pour incarcérer les Égyptiens, les gens de couleur, même peut-être les Juifs algériens, tout ce qui faisait pas partie de sa vision de la population marseillaise. Mais donc, c'est lié avec la politique de Bonaparte, en fait, son rétablissement de l'esclavage en 1802. Et c'est très important de comprendre que ce n'est pas juste une question des colonies, c'est aussi une question de la métropole, parce que, en fait, avec le rétablissement de l'esclavage, c'est le rétablissement aussi de l'interdiction des gens de couleur
de vivre sur
de
le territoire
vivre sur le
national.
territoire.
Alors, ce qui est fort intéressant, c'est qu'effectivement, l'étau va finir par se desserrer un peu, c'est du moins ce qu'on croit comprendre. Vous le dites qu'en 1810, 1811, eh bien, il y a une autorisation de circuler sur le territoire qui s'installe, que certains d'entre eux remontent à Paris, qu'ils vont participer à la vie parisienne, se marier parfois avec des Françaises, etc. Et qu'au bout du compte, cet épisode-là, dites-vous, surtout l'épisode postérieur, d'après la chute de Napoléon, qui va voir encore fleurir encore plus peut-être une communauté arabe sur le territoire national, a fini par être oublié. Et vous dites dans votre préface que c'est ce que vous voulez faire une sorte de reviviscence, faire revivre cette expérience-là, qui est une expérience certes limitée en termes d'individus, mais qui néanmoins a existé, qui a eu des conséquences, expliquez-vous, dans la littérature, dans les gravures, dans la peinture de l'époque, puisqu'on représente de plus en plus fréquemment des personnages enturbannés dans cette gravure-là, et que néanmoins, on a voulu clore la parenthèse, fermer la parenthèse. Pourquoi, selon vous, Yann Koller?
Bon, je pense que à partir des années 1830, il y a deux choses qui sont importantes. C'est la révolution de juillet qui réinstaure un gouvernement qui est plutôt révolutionnaire, bonapartiste, etc. Et donc, les épisodes, surtout les épisodes de Marseille en 1815, le massacre des Mamelouks.
Oui, parce que je suis passé rapidement, mais il faut s'y arrêter sur ce massacre, justement, de 1815, où eh bien, la population marseillaise, une fois Napoléon tombé définitivement, décide d'aller brûler tout un quartier dans lequel il y a ces Égyptiens et puis de massacrer tous ceux qu'ils trouvent sur leur passage et qui ressemblent justement à ces populations égyptiennes. Ça aussi, ça a été oublié dans la mémoire marseillaise, dites-vous, Yann Koller.
Oui, absolument, parce que en fait, je pense que ce n'est pas une mémoire qui est utile après ce moment-là et au même moment, juste pendant un mois de différence entre la révolution de juillet et l'invasion d'Alger, donc le commencement du colonialisme français en Afrique du Nord, qui change absolument le donné, en fait, l'idée, l'identité arabe en France pour cette population. Et c'est très important, juste comme le rétablissement de l'esclavage, de comprendre que le colonialisme, le changement de statut de ces gens a été très important pour l'histoire de la France en général, pour la population française, parce que maintenant, il y a des différents statuts et donc pour eux, c'est très difficile. Et comme ça, je pense qu'on confond très souvent le massacre des Mamelouks par Mohamed Ali en Égypte et le massacre de Mamelouk à Marseille. Mm-hmm. Et après, on oublie totalement cet épisode.
Alors, on voit bien qu'il y a une dimension historiographique très intéressante et très importante dans votre livre, Yann Koller. Non seulement c'est un récit très précis, très travaillé, justement, de ces archives que vous avez découvertes et qui, donc, n'étaient pas connues de beaucoup, mais aussi une volonté de vous positionner, comme on dit, dans le champ historique et historiographique, puisque vous faites pièce à des grands historiens de cette période-là, comme Henri Laurence, comme Édouard Saïd, comme d'autres, en disant, eh bien, ils sont partis sur des postulats que je ne retrouve pas dans mes archives. C'est-à-dire le postulat, par exemple, que eh bien, c'est l'Europe, et en particulier l'incursion bonapartiste en Égypte, qui va moderniser, entre guillemets, cette partie du monde. Eh bien, vous dites non, il y a des travaux d'historiens qui nous montrent que cette partie du monde commence à bouger dès le milieu du XVIIIe siècle et sans l'arrivée, bien avant l'arrivée de Bonaparte et de ses armées. Vous dites que sur la question de l'orientalisme, l'obsession de cette période de 1830 en particulier, du romantisme par Édouard Saïd, eh bien, masque ce qui s'est passé auparavant. Et on a l'impression que vous voulez aussi bagarrer un peu les thèses d'autres historiens et bousculer un peu d'autres historiens à partir de ce fonds d'archives que vous avez trouvé, Yann Koller.
Oui, c'est vrai. en fait, pour moi, c'est très important l'intermédiarité entre Occident et Orient. Je pense que ça a toujours été comme ça, cette idée d'un conflit de civilisation. Dans ce que j'ai vu, ce n'est pas le cas. Il y a des conflits, mais il y a des conflits en France, il y a des conflits au Moyen-Orient, mais ce n'est pas cette vision de...
Ce n'est pas la thèse huntingtonienne, c'est ça que vous voulez dire. Ce n'est pas Samuel Huntington que vous voulez voir avec le choc des civilisations.
Oui, absolument. Qui a été très important juste avant, en fait, le commencement de cette recherche qui a dominé la vision américaine, surtout des choses politiques. Et c'est très important pour moi de refaire cette histoire et de montrer qu'il y a des gens qui étaient toujours entre Europe et dans le Méditerranée, les échanges, mais c'est pas toujours bon, c'est pas toujours une histoire de partage et de gentillesse. Il y a des violences, il y a des conflits aussi.
Oui, vous vous inscrivez là dans une vision historique qui est assez proche peut-être, je vais en citer d'autres, de Jocelyne Daclia quand elle travaille sur la lingua franca, ou par exemple évidemment de Lucette Valency qui travaille sur la présence des musulmans en Europe dans des siècles plus anciens. Donc il y a aussi d'autres écoles historiques auxquelles vous pouvez vous rattacher d'une certaine façon, Yann Koller.
Oui, j'ai beaucoup travaillé avec Jocelyne. Elle est une grande historienne de l'entre-deux. Et en fait, oui, je pense qu'il y a une école historique qui commence aujourd'hui, qui fait plutôt comprendre ces échanges, mais pas uniquement de façon, en fait, dans le passé, c'était ou conflit ou échange. Maintenant, il faut comprendre que les deux sont toujours ensemble, ils sont toujours partagés. Et aussi de comprendre que les Français aussi, c'était entre deux, les voyageurs, les gens qui étaient toujours mobiles et qui avaient des origines différentes et partagées.
Alors, vous décrivez dans la France arabe, une France arabe, vous décrivez ce que vous appelez le making et l'unmaking de la France arabe, c'est-à-dire à la fois sa formation puis son délitement en à peine 30 ans, avant que ça ne se reconstitue sur d'autres bases. Vous nous rappelez de façon assez juste, et tout Parisien devrait s'en souvenir, que le plus vieux monument sur le sol parisien n'est pas un monument français, mais c'est l'obélisque de Louxor en particulier. Donc ça, c'est une bonne chose que de s'en souvenir. Vous décapez certaines idées sur l'égyptomanie, et en particulier l'idée que dès le retour de Bonaparte en 1799, très rapidement, l'égyptomanie aurait gagné Paris. Mais vous dites que tout compte fait, on n'en a pas tellement la preuve dans les archives. Et vous nous rappelez... Et on va peut-être terminer là-dessus avec vous, pour cette première partie de l'émission. Yann Koller, vous nous rappelez qu'il y a un personnage juste derrière Napoléon, dans le tableau de David, du Sacre, que personne ne remarque. Il est au milieu de tous les dignitaires de l'Église. Et puis, il a une barbe, il a une sorte de capuche rouge et blanche. Qui est-il ?
Oui, c'est un personnage haut en couleur, en fait, très intéressant. Roufail Zahour, qui était en Libanais d'origine, qui était en Italie, qui avait étudié en Italie, mais qui est allé en Égypte avec Bonaparte comme interprète. Parce que ce qui est très peu remarqué, c'est le fait que Bonaparte, parmi les savants qu'il a emmené en Orient, il n'a pas emmené des orientalistes qui, d'ailleurs, ne voulaient pas partir en Orient eux-mêmes. Sylvestre de Sacy et Louis Langlais ne s'y intéressaient pas du tout. Donc, il fallait avoir des interprètes locaux comme Roufail Zahour, qui est revenu en France et qui est devenu professeur de l'arabe vulgaire à l'école des langues orientales vivantes, établie juste après la Révolution. Et donc, c'était quelqu'un donc assez puissant dans cette communauté, mais aussi avec des problèmes d'alcool et d'autres choses. Apparemment,
qui posait quelques problèmes à la police, ouais, à la police de Napoléon, en tous les cas.
Mais quand même,
il est reparti. Il est reparti en Égypte ensuite, c'est ça. Il est parti du côté de Mehmet Ali pour aider Mehmet Ali à construire l'Égypte moderne.
Avec la restauration, ils ont réduit son salaire et donc il est parti comme ça en colère et il a fait partie de la nouvelle école de traduction faite par Mohamed Ali à Boulaq, au Caire. Donc, il a fait une grande partie de cette rénovation de l'Égypte après.
Dites-nous un petit mot, juste parce qu'on n'en a pas parlé, justement de l'importance que ça qu'a eu la présence de ces Égyptiens sur le sol français pour la connaissance de la langue arabe. Parce qu'en fait, ce sont eux qui ont créé la grande filière dont on a dit à tort, plus tard, que c'était la colonisation de l'Algérie qui l'avait permis, mais la grande filière justement de connaissance de cette langue arabe et de la littérature arabe, ce sont eux qui l'ont tous créé un peu partout, à Marseille, à Paris, dans toutes les institutions.
Oui, c'est vrai. Et surtout la modernisation de l'étude de la langue arabe, parce que Sylvestre de Sacy, par exemple, c'était un grand, grand spécialiste, mais il n'avait aucune expérience de parler. Il n'avait pas voyagé. Et quand le fameux Rifaa Tartawi est venu à Paris, donc il a dit c'est un grand spécialiste, mais quand il parle arabe...
Tartawi, c'est lui qui a écrit Paris, c'est l'enfer, c'est le paradis des femmes et l'enfer des chevaux. C'est lui qui l'a écrit, c'est ça, je crois. <C'est>...
C'est un grand personnage, Tartawi, c'est un grand personnage du Nahda, ce qu'on appelle le Nahda, le Renaissance arabe au 19e siècle. Mais en fait, il a été il a eu comme professeur ces Arabes français, comme Joseph Agoub, qu'il appelait le Khwaja Joseph Agoub. Donc, c'est une ligne de passage de cette expérience d'une France arabe dans la modernité arabe.
Merci en tous les cas, Yann Koller, de nous avoir fait découvrir, et je conseille à nos auditeurs l'achat de ce livre formidable, donc qui s'appelle 1798-1831, une France arabe, histoire des débuts de la diversité. Et ça n'est pas parce que son éditeur est en face de nous, mais il faut dire aussi qu'il y a un très beau travail iconographique qui accompagne ce livre, donc paru d'abord en 2010 aux États-Unis et traduit tout récemment chez Alma Éditeur. Merci d'être venu parler à notre micro pour évoquer cette France.
Merci beaucoup.
Deuxième partie de cette émission de ce lundi, et nous allons ouvrir le thème de notre semaine, donc une semaine consacrée là aussi à des allers-retours en l'occurrence d'étudiants entre la France et l'Afrique, et l'Afrique noire en particulier après les indépendances. Une semaine qui continuera demain avec un documentaire dont nous allons entendre tout de suite un petit extrait monté par Véronique Samilioff, un documentaire de Séverine Liatard, enregistré à Dakar. Que s'était-il passé en mai 68 à Dakar? Voilà quelques témoins qui le racontent.
Les policiers que vous voyez ici dans le campus là, la première fois qu'ils sont apparus dans le décor, c'est justement en 68. C'était le mardi 28 mai quand ils ont commencé à encercler la cité, et nous avons été bouclés dans cette cité dans la nuit du 28 au 29 mai 68 avec les responsables syndicaux des élèves du lycée Van Vollenhoven. Il y en a deux qui ont passé la nuit dans ma chambre avec moi. L'un est député actuellement. Il a passé la nuit dans ma chambre, au couloir S.
Dakar était le creuset intellectuel. Tous ceux qui venaient du Bénin, à l'époque le Dahomey, le Togo, le Mali, le Burkina, tous les pays de la Côte d'Ivoire, étaient ici au Sénégal et formaient quelque chose d'assez explosif.
À la rentrée 67-68, Senghor s'est trouvé brusquement en face d'une situation économique qu'il n'avait pas prévue. Parce qu'il pensait toujours que la France, et surtout les maisons commerciales françaises installées ici de tout temps, allaient soutenir l'économie sénégalaise, qui était malheureusement fondée uniquement sur la culture de la rechute. Donc ces années-là, on a appelé ça le malaise paysan, parce que les paysans se sont retrouvés un peu en difficulté. Et tout ça a fait que, économiquement, la situation se détériorant, il s'est trouvé en face de cette opposition estudiantine et n'a pas eu l'appui de ce qui a toujours fait sa force, les populations paysannes, parce que ces gens-là avaient d'autres soucis. Et c'est ainsi que les étudiants ont constitué une espèce de fer de lance pour tout ce qui était opposition.
Nous, on était en train de nous organiser pour voir ce qu'il faut faire. Et d'un seul coup, ils ont sonné le clairon. Parce qu'on leur aurait dit que nous étions en train de fabriquer des cocktails Molotov, alors à la faculté de sciences. Tout est dit que quand le clairon a sonné, alors la troupe est entrée à l'intérieur du campus. Et les étudiants ont fui et on les a pourchassés jusqu'à l'intérieur, en tout cas de la cité.
C'est à partir de là que certaines réformes ont été engagées au niveau de l'université, au niveau même politique, avec la nomination d'un premier ministre. À l'époque, il n'y avait pas de premier ministre. C'est à ce moment,
Abdou Diouf,
voilà, que une sorte de dialogue a été établi avec les associations d'étudiants, qui étaient plus ou moins reconnues maintenant, et qu'on consultait, parce que à partir de ce moment, le ministère de l'Éducation ne pouvait plus ignorer les associations d'étudiants établies à Dakar, d'une part, et d'autre part, les syndicats avaient plus de poids sur le plan national. On reconnaissait leur force, leur légitimité. Mais après mai 68, je crois que Senghor lui-même a compris qu'il ne pouvait plus gouverner comme auparavant.
Le
Voilà un extrait du documentaire que vous pourrez entendre demain dans notre semaine consacrée au mouvement et aux formations des étudiants d'Afrique noire, donc après les indépendances. Il est 9h37 sur France Culture. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, une émission donc consacrée qui ouvre justement cette semaine avec vous, Cyril Niattard, donc conçue avec vous cette semaine sur ces mouvements des étudiants africains d'après les indépendances.
Alors à partir de ce documentaire sur mai 68, nous sommes partis avec Véronique Samouilov au mois de mai pour tourner ce documentaire. Au mois d'août, il y a quand même eu des émeutes à l'université de Dakar, donc on est quand même dans l'actualité. Et il y a eu un étudiant mort, plusieurs étudiants blessés. Il faut savoir que Macky Sall avait réintégré sur le campus les forces de l'ordre et de sécurité. Et du coup, Ibrahim Atioum a été nommé au pied levé recteur d'université, donc historien. Grand historien que vous connaissez évidemment, Catherine Coquerie. Et Ibrahim Atioum, qui lui-même d'ailleurs s'était intéressé à ce mouvement, je crois qu'il a écrit un article sur mai 68, où justement il précisait le rôle majeur qu'avait joué ce mouvement dans le retour au pluralisme politique et syndical au Sénégal, qui loin de s'achever, et on en rediscutera avec vous Catherine Coquerie, loin de s'achever à l'orée des années 70, va se poursuivre bien au-delà, au moins jusqu'en 1975, voire jusqu'au départ de Senghor. Précisons aussi qu'il y a eu des tables rondes, que les Sénégalais s'intéressent, les historiens sénégalais s'intéressent vraiment à cette histoire-là. Il y a eu une célébration du 40e anniversaire, une célébration aussi du 45e anniversaire. En deuxième thématique, nous avons choisi donc pour l'émission du mercredi de réfléchir à la Fédération des étudiants d'Afrique noire, cette fois en France.
Donc nous toujours l'aller-retour.
L'aller-retour entre les différents pays. Au début des années 50, donc, il y a les étudiants des colonies françaises d'Afrique qui vont arriver en masse en métropole pour poursuivre leur cursus universitaire. Et dès 1950, ils vont donc s'organiser en association sur le même type que les associations en France. Et ils vont devenir un peu le fer de lance finalement de l'indépendance de l'Afrique. Mais leur position est ambiguë, on verra ça mercredi, parce que à la fois ils sont réprimés par le gouvernement français et en même temps le gouvernement français souhaite plus ou moins les utiliser dans un contexte justement de décolonisation. Et puis jeudi, cette fois nous interrogerons sur les étudiants africains en URSS et dans les autres pays du monde communiste, puisque dès 1956, l'URSS va s'engager constamment en faveur des nations africaines et asiatiques contre la domination occidentale. Ça va donc ouvrir des nouvelles perspectives, évidemment, pour la lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme. Et par exemple, en 1962, il y a la Fédération des étudiants africains en Union soviétique qui est créée, juste après l'ouverture, en 1960, de l'Université russe de l'amitié des peuples, dite Université Patrice Lumumba. Et là aussi, les relations sont assez complexes, ambiguës.
Merci Catherine Coquerie-Dorvich d'avoir accepté notre invitation pour ouvrir cette semaine, puisque, tout compte fait, vous êtes la témoin de tout cela. Vous êtes une témoin centrale de cette histoire-là, puisque vous commencez vos études sur l'histoire de l'Afrique au tout début des années 60. Vous publiez votre premier livre, je crois, en 1965. Et puis ensuite, vous allez continuer tout au long des années 70 et travailler en permanence dans cet aller-retour entre la France et ses anciennes colonies. Vous irez à Dakar très fréquemment, à l'université de Dakar, donc pour y enseigner, pour y former des étudiants. Des étudiants vont venir chez vous. Vous êtes donc au cœur de ce travail en commun, pourrait-on dire, entre jeunes étudiants qui se forment à l'histoire de leur propre pays et vous-même qui travaillez sur l'histoire de l'Afrique.
Oui, mais malheureusement, pour la mémoire, je n'étais pas présente pour le mai 68 à Dakar, parce que j'étais pour le mai 68 à Paris.
Oui, vous ne pouvez pas être aux deux endroits à la fois.
Mais il n'empêche que vous arrivez juste après.
Je suis allée pour la première fois à Dakar en 67, c'est-à-dire avant, et que j'y suis retournée en 69, je ne sais plus exactement, mais très peu de temps après. J'ai enseigné 3-4 ans de façon assez sportive, précisément parce que j'arrivais dans un milieu tout à fait
électrisé.
Électrisé à la faculté de droit et de sciences économiques où j'avais été, qui à l'époque n'enseignait absolument pas le droit sénégalais ou quoi que ce soit sur l'Afrique. Et par conséquent, Samir Amin, économiste égyptien d'origine égyptienne bien connu, qui était professeur à l'université de sciences économiques, m'avait invité, avait créé un cours d'anthropologie économique et d'histoire économique de l'Afrique noire, on disait à l'époque, l'Afrique subsaharienne. Et c'était moi qui ai donc enseigné ce cours pendant 2-3 ans, au début des années 70. Et puis, j'avais fait la connaissance de Boubacar Bari, Boubacar Bari, qui est le fondateur de ce qu'il a appelé un peu plus tard l'école de Dakar. L'école de Dakar, c'est une école d'historiens. Moi, ce dont je peux parler, ce sont des historiens, bien puisque sûr. Je suis historienne de l'Afrique. Et l'histoire de l'Afrique en tant que discipline était en train de naître à ce moment-là. Boubacar Bari, je l'ai connu à sa soutenance de thèse de troisième cycle, je pense en 1972. À Paris, il avait fait toutes ses études à l'université de Dakar, mais l'université de Dakar, qui était la seule université francophone à l'époque, qui n'avait été créée que très tardivement, qui avait le statut d'université depuis 1958, n'avait pas le niveau du troisième cycle. Par conséquent, il s'était inscrit par correspondance à Paris et il était venu soutenir à Paris sa thèse. Donc j'étais à son jury, c'est comme ça que je l'ai connu. Et Boubacar Bari avait comme idée qu'il fallait que les jeunes historiens qui avaient été très militants en 68 soient formés à l'université de Dakar. Donc il fallait créer un troisième cycle à Dakar. Mais il n'y avait pas encore de professeur titulaire et l'université de Dakar était extrêmement suiviste sur les règlements avec l'université française. Il fallait un docteur d'État. Il n'existait pas encore de docteur d'État sénégalais ou exerçant. Et donc Boubacar Bari et son collègue Lonis, qui était un spécialiste antillais de l'histoire grecque, de l'histoire de Sparte, m'ont demandé à ce moment-là de venir enseigner 6 semaines par an au département d'histoire de Dakar. Ils m'ont fait habiliter comme directrice de recherche par le conseil de l'université de Dakar. Et j'ai contribué à former. C'est eux qui faisaient le travail. C'est eux qui faisaient le travail. Moi, je venais 6 semaines par an. Évidemment, pendant ces 6 semaines, je travaillais beaucoup, mais ça n'était que 6 semaines. Je signais tous les papiers, parce qu'il fallait que quelqu'un signe. Et cela a duré jusqu'à ce que Boubacar Bari et Abdoulaye Matili soutiennent leur thèse d'État, cette fameuse thèse d'État. Pour la première fois depuis l'indépendance, ça avait lieu à l'université de Dakar et ça a dû avoir lieu en 1980, je pense. Donc pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé très étroitement avec eux et j'ai contribué à la formation de l'école de Dakar.
Et dans le portrait que fait de vous Mamadou Diouf, donc un historien qui maintenant enseigne aux États-Unis, mais qui a été formé en grande partie en France, Mamadou Diouf lui aussi sénégalais, il fait un portrait de vous dans ce très grand livre qui s'appelle « Un siècle d'historienne » sous la direction d'André Burguière et de Bernard Vincent aux éditions des Femmes. Il dit en fait que votre appétence fait que vous avez participé à l'émergence de solides communautés d'historiens, notamment à Dakar et à Abidjan. C'est aussi cela qui est intéressant, c'est cet aller-retour permanent où les étudiants donc, de ces nouvelles nations nouvellement décolonisées doivent trouver les moyens pour se former. Où vont-ils aller? Viennent-ils en France? Viennent-ils, comme on le disait tout à l'heure avec Séverine Yatar, à Moscou ou ailleurs? Où vont-ils se former pour pouvoir ensuite pouvoir revenir dans leur pays et enseigner et former de nouveaux historiens, justement?
Oui, alors c'était à l'époque très important, cet aller-retour. Et moi, je n'étais pas professeur à l'université Dakar. Le département d'histoire avait été, en somme, décapité. Il existait avant, avec des professeurs français qui étaient docteurs d'État et qui pouvaient diriger. Mais ils étaient partis au moment où je suis arrivée. Par conséquent, il fallait le reconstruire, ce département, avec la hiérarchie exigée par l'Académie. Mais en même temps, le niveau troisième cycle n'existait pas. Donc, et tous les étudiants jeunes historiens qui voulaient enseigner, il y en avait beaucoup, parce qu'il y en avait, il y avait beaucoup qui voulaient, et on en avait beaucoup besoin, parce que les différentes universités nationales se sont créées petit à petit après l'indépendance et avaient besoin de personnel, sont venus se former en France. Et en France, nous étions très peu nombreux pour les former. Il y avait Aix en Provence, où avec le professeur Miège, mais Miège était surtout spécialiste d'Afrique du Nord, mais enfin, il couvrait couvrait tout, il couvrait le continent, il avait la réputation d'être conservateur. À une époque,
et vous étiez
tout était...
jeune, rouge et jeune,
voilà,
jeune,
moi, dit,
jeune rouge et femme
on
à l'époque.
M'avait dit, un collègue plus âgé qui m'avait dit à l'époque, oh, vous n'avez aucune chance dans un avenir proche parce que vous êtes jeune, femme et rouge. Alors je lui avais répondu, jeune, c'est une maladie qui passe, femme, je n'y peux rien, et rouge, c'est quand même exagéré, mais enfin bon.
En tous les cas,
donc oui, évidemment, les étudiants issus de mai 68 africains, qui avaient envie beaucoup de travailler à l'époque sur la période coloniale, c'était ça qu'ils ne la connaissaient pas du tout. Il n'y avait pas d'histoire de la période coloniale en Afrique. Donc c'est là-dessus qu'ils voulaient travailler. C'est plutôt à Paris 7, où j'étais enseignante, où je suis devenue prof, je crois, en 72-74, qu'ils venaient. Et ils étaient très nombreux. Et nous avions des conventions interuniversitaire avec finalement toutes les universités, presque toutes les universités francophones d'Afrique, avec un échange réciproque. Ça, c'est, j'y tenais énormément, c'est-à-dire qu'il y avait des enseignants français qui partaient une quinzaine de jours, mais l'enseignant africain venait, lui, 2 mois, parce qu'il fallait quand même 2 mois, plus évidemment des étudiants qui étaient choisis par les collègues africains et qui venaient se former chez moi à Paris.
Et précisons, oui, Catherine Kokrividrovic, que même en France, l'historiographie était en plein bouleversement. Il y avait des conflits entre certaines écoles d'histoire sur l'Afrique, puisque l'ancienne école, évidemment, travaillait que sur les archives coloniales. Vous vous proposiez de travailler sur d'autres archives, et notamment des archives écrites. Vous travaillez avec également avec les sources plutôt anglo-saxonnes, l'historiographie américaine et anglaise.
Oui, alors il y avait une répartition, disons, on s'entendait bien, mais on était assez différents dans nos spécialités. Alors, j'ai parlé de Miège, à Paris 1, puisqu'il y avait, Yves Persson. Et Yves Persson, qui était donc mon collègue à Paris 1, était un grand défenseur, d'une part, de l'histoire de l'Afrique. Il a fait beaucoup, et de l'histoire orale, c'est-à-dire l'utilisation. Donc, la spécialité de l'Université de Paris 1, à cette époque-là, c'était plutôt l'histoire avant la colonisation. Donc, il y avait une répartition. Avant la colonisation, ils allaient à Paris 1. Pour la colonisation, ils allaient à Paris 7,
avec vous,
où j'étais prof. Et Paris 7 était très novateur à l'époque. Paris 7 est une université qui a été créée à la suite de 68. Et
là où
les
Michel
historiens
Perrault
de l'ancienne Sorbonne qui ont choisi Paris 7, c'était des historiens, disons, marginaux par rapport à l'histoire dominante, c'est-à-dire qu'il y avait une grande majorité à l'époque, enfin, disons, il y a une grande moitié des historiens qui ont choisi Paris 7 étaient des spécialistes non européens. Et moi, j'ai été à ce moment-là élu à Paris 7 parce que pour représenter l'histoire de l'Afrique, précisément.
Et comme nous sommes dans une semaine, donc on va parler de jeunesse et d'étudiants, Catherine Kokri, vous êtes une pionnière aussi au niveau de cette problématique, puisque bon, vous allez faire des coordonnées, écrire des grandes histoires générales de l'Afrique, donc à destination d'ailleurs des étudiants et des lycéens. Et puis vous allez travailler sur la ville, et en travaillant sur la ville, vous allez aussi travailler sur les jeunes et oui, sur les femmes, qui sont deux catégories comme ça essentielles qu'on peut mesurer dans une société, en tous les cas.
Oui, oui, j'ai récemment regardé et pensé avec mon collègue Henri Mugnot, qui était également à Paris 7 et qui était historien, à la fois historien et anthropologue de l'Afrique. Nous nous sommes lancés en 1974 dans la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique subsaharienne depuis 1800. Et je me dis a posteriori, mais nous étions d'une inconscience totale, parce que nous étions jeunes, nous ne savions pas grand-chose. Et finalement, c'est un manuel qui a servi pendant des générations, effectivement. Et c'est en 2005 que j'ai dit au PUF, non, c'est fini maintenant, c'est à des jeunes de réécrire. Je refuse absolument de remodifier une fois de plus ce texte qui a vieilli, enfin, qui date de plus d'une génération. Mais ce qui était très important, c'est que le séminaire de formation que j'avais à cette époque-là et que j'ai eu pendant longtemps était un séminaire où, disons, la très grande majorité de mes étudiants, qui pouvaient être une trentaine, 35, quelquefois 40, enfin, ils étaient nombreux, étaient presque tous africains, francophones, pour la plupart, venant de toutes tous les pays francophones. Personnellement, j'avais travaillé pour ma thèse d'État sur l'Afrique équatoriale, dont il y avait pas mal de Congolais, mais il y avait des Burkinabés, etc. Ils étaient choisis par leurs universités en fonction de leur qualité. C'est pour ça que j'ai eu successivement de très bons étudiants, pas tous, bien sûr, hein. Il y avait de tout, disons. Mais Boubacar Bari, je l'ai connu au moment où il soutenait. Mamadou Diouf, qui a été un élève de la génération d'après de Boubacar Bari, n'a jamais été mon étudiant. Lui, il a plutôt travaillé à Paris 1. On s'est connus et on s'est liés d'amitié professionnelle très fortement.
Mais, Achille Mbembe, non,
Achille Mbembe, oui.
Maintenant, enseigne à Johannesburg.
Achille se formait un peu tout seul, mais enfin, il tenait absolument à travailler avec moi. Je lui disais, mais vous savez, je suis vraiment pas tellement spécialiste du Cameroun, vous devriez aller voir. Non, c'est avec vous, je veux. Bon, on était amis. Ibrahima Thioub, qui a été à son tour élève de Mamadou Diouf, m'est arrivé comme boursier, choisi par son département. C'est comme ça que j'ai connu. Et donc, j'ai formé 3-4 générations de chercheurs qui, à l'époque, il faut dire, n'avaient aucun mal à trouver une position, parce qu'ils rentraient et directement, ils avaient un poste dans les universités en création qui y avait besoin d'eux. Maintenant, les choses ont changé.
Et pourquoi travailler sur les jeunes alors? Pourquoi travailler sur la jeunesse africaine? Ça vous a paru essentiel à un moment donné?
C'est-à-dire mon laboratoire qui s'appelait à l'époque, selon les noms d'époque, laboratoire connaissance du tiers-monde, puis des tiers-mondes, et puis après on s'appelait les sociétés en développement parce que ça faisait un peu ringard. c'était dépassé, disons. Cherchait vraiment, enfin, on sentait ce qui allait devenir important. Et ce qui allait devenir important, ben, effectivement, on a senti l'histoire des jeunes. On a fait l'histoire des entreprises, on a commencé à sentir qu'apparaissait ce qu'on a appelé l'informel, qui n'était pas informel du tout, mais dont il fallait parler. Puis les jeunes en Afrique, bon, maintenant, plus des 3/4 de la population sont jeunes, presque tous sont nés après les indépendances. C'est un facteur essentiel, mais laissé à l'écart parce que y a les aînés, il y a la sagesse, etc. Donc, on lançait des appels d'offres et tous ceux qui voulaient parler de ces nouveaux sujets venaient en parler. Et grâce à l'époque à l'Harmattan, alors on dit beaucoup de mal de l'Harmattan, mais moi j'en pense beaucoup de bien de ce côté parce qu'on a pu publier justement l'ensemble des communications qu'on retravaillait, bien entendu, de ces différents colloques qui sont des sommes qui sont restées. Et les villes, effectivement, l'urbanisation, l'histoire de l'urbanisation et l'histoire de tous les échanges créés dans les villes avant la colonisation, pendant la colonisation et depuis l'indépendance, ce genre de thème qu'on a lancé.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir que dans ces 50 années, si on plaque cela sur d'autres disciplines ou sous-disciplines de l'histoire, par exemple, eh bien, on a l'impression qu'il y a eu des bouleversements considérables. On commence dans un marxisme plus ou moins orthodoxe dans les années 60. Il y a une vision très, très particulière de l'histoire de l'Afrique. Et puis aussi dans cette vision des indépendances, dans le travail de l'UNESCO qui fait les histoires générales de l'Afrique, etc. Et puis progressivement, on voit qu'il faut finir par découper un peu ces histoires nationales en d'autres choses, travailler sur le social, tout cela. Et on a l'impression qu'il y a eu un renouvellement constant des thématiques en 40 ou 50 ans, Catherine Coquerel.
Ah oui, et énorme. Et alors, pour le début, marxisme...
Je ne parle pas simplement pour vous,
je dirais simplement... Non, justement, on était marxiste, absolument, mais marxiste complètement anti-Stal. C'était une révision. Mais c'était l'histoire économique à l'époque. C'était l'histoire économique qui dominait. Moi, je suis passé progressivement à l'histoire sociale, c'est-à-dire l'histoire de toutes les transformations justement qui se sont produites. Enfin, mon domaine, le domaine pour lequel j'ai formé les collègues, c'est depuis la veille de la colonisation, des sociétés à la veille de la colonisation qui n'étaient pas des sociétés, justement, qui n'étaient plus ce qu'on appelait autrefois les sociétés traditionnelles, parce qu'il y a plusieurs milliers d'histoires avant. Et puis, tout le creuset urbain, évidemment, l'histoire des femmes, Alors, ma collègue à Paris 7 était Michel Perrault, qui avait fait l'histoire des femmes en Occident. Je me suis aperçue que sur l'Afrique, il n'y avait rien. En France, parce qu'il y avait beaucoup de choses en anglais, déjà à l'époque, surtout des anthropologues. Et par conséquent, et puis alors, j'ai eu la chance de pouvoir pendant 20 ans aussi aller enseigner 6 semaines par an dans une université américaine qui m'a ouvert toute la littérature de langue anglaise, infiniment plus abondante que la littérature de langue française. Et donc, j'étais une espèce de passeuse permanente. Effectivement, pour essayer.
Pour reprendre le terme de Yann Koller. Voilà.
Alors, ça fait que. Ce dont je dirais, je suis d'une certaine façon le plus fier, c'est qu'actuellement, il y a des réunions d'historiens internationaux, africains, d'Afrique, des diasporas et des africains d'Américaines, qui travaille à une refonte de l'histoire générale de l'Afrique et que finalement je me trouve la seule européenne au milieu d'une vingtaine d'Africains qui prouvent que ça marche.
C'est une très bonne conclusion. Merci Catherine Kokrividrovitch. Pour ceux qui ne vous auraient pas encore lu, ils peuvent lire par exemple, paru à La Découverte il y a quelques années, deux ou trois ans, La petite histoire de l'Afrique du Sud, l'Afrique au sud du Sahara, de la préhistoire à nos jours, c'est à La Découverte. Et puis pour ceux qui voudraient connaître plus précisément justement votre itinéraire, ils peuvent se plonger dans ce livre collectif, donc aux éditions des femmes Antoinette Fouque, Un siècle d'historienne, sous la direction d'André Burguière et de Bernard Vincent. L'article qui vous est consacré est écrit par Mamadou Diouf. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Séverine. Et on vous retrouve donc demain pour le documentaire que vous avez réalisé avec Véronique Samuilov. Et puis ensuite, mercredi et jeudi, pour l'émission sur la FEANF, la Fédération des étudiants africains d'Afrique noire en France, et également la présence des Africains des étudiants africains dans les universités du Bloc socialiste. Ça sera jeudi. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Emmanuel Morse-Duncan était à la technique et Véronique Samuilov à la réalisation. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez y laisser vos commentaires, écouter ou réécouter l'émission pendant 1000 jours pour ce qui est de l'écoute et de la réécoute et du téléchargement pendant un an après sa diffusion. Laissez vos commentaires également sur les pages du groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter.